Bonsoir, la police recherche toujours le dangereux criminel évadé dans le Nord Vaudois. Beaucoup de questions ce soir sur les circonstances de cette évasion. Comment a-t-on pu laisser un assassin, violeur, récidiviste s'enfuir lors d'une sortie? On entendra le responsable du canton de Berne qui refuse d'endosser la responsabilité. Nous tenterons de comprendre le statut particulier de ce détenu avec le chef du service pénitentiaire genevois. Et puis avec le porte-parole de la police vaudoise Jean-Christophe Sautrel, nous ferons le point sur les recherches qui sont jusqu'ici infructueuses. C'est l'échec pour Le Corbusier. L'UNESCO refuse une nouvelle fois d'accorder à ses œuvres le statut de patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est aussi peut-être la faute de la Suisse, nous dira Jean-Louis Cohen. Il est spécialiste de Le Corbusier. Il fustige la mollesse de la Suisse dans ce dossier. Il est avec nous en direct. Les libéraux vaudois n'avaient vraiment pas besoin de ça. Leur candidat au Conseil des États et au Conseil national renonce. Et le parti doit s'inventer très rapidement une nouvelle stratégie. Il en va peut-être de la survie des libéraux vaudois dont l'unique siège est menacé. Leur présidente Catherine Labouchère est en direct avec nous. À Genève s'annonce la fin de carrière politique d'une étoile filante de l'UDC. Il était le grand espoir du parti. Yves Niedeguerre s'engage dans une autre voie. S'il est élu à la Cour des comptes, il ne pourra plus siéger à Berne. De quoi s'interroger sur ce fulgurant retournement de situation politique. Yves Niedeguerre se confie dans une vingtaine de minutes. Rien ne va plus à l'ODM, l'Office fédéral des migrations. Muriel Balaman s'est procuré l'enquête interne de satisfaction du personnel et le résultat est éloquent, vous l'entendrez. Le Jura entre en son tour dans la ronde des baisses d'impôts. Le ministre des Finances Charles Juillard a présenté son plan aujourd'hui, 10 jours à peu près exactement après la spectaculaire baisse d'impôts du voisin de Châtelois. Je veux rendre à la France sa force, sa sérénité, son unité. C'est par ces mots que Martine Aubry s'est lancée dans les primaires du Parti Socialiste pour la présidentielle française. Le PS peut-il battre Sarkozy et comment? On va en débattre à 18h40 avec l'éditorialiste Thomas Legrand, avec le politologue Frédéric Dabi et puis notre correspondant en France, Mehmet Gültas. Avec le représentant de la Commission européenne, on tentera de comprendre le désarroi européen face à la multiplication de cas de diarrhée sanglante due à la bactérie E. coli. Ce sera dans une petite vingtaine de minutes. La canicule prendra fin demain. Les premières pluies tomberont fin de matinée avant une chute drastique des températures. Il ne fera plus que 24 degrés au maximum demain. Le soleil revient jeudi. Les températures remontent ensuite jusqu'au week-end. La météo de Sébastien Dupéret à la fin de ce forum.
Forum, Nathalie Ducommun. Philippe Reva.
L'évadé de Provence dans le Nord Vaudois court toujours. Assassin, violeur, multirécidiviste, le casier judiciaire de cet évadé fait froid dans le dos. On accueille tout de suite le porte-parole de la police cantonale vaudoise, Jean-Christophe Sautrel. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Malgré un important dispositif, toujours pas de traces donc de ce dangereux détenu. C'est inquiétant.
C'est inquiétant puisqu'on a affaire à un individu potentiellement dangereux, malgré le fait que, entre les polices cantonales neuchâteloises et vaudoises, plus d'une centaine de personnes ont été engagées durant toute la journée pour effectuer des recherches dans la région du Creux-du-Vent, dans le secteur de Val-de-Travers, dans la région de Mutru, Provence, Grand-Son-Concise. Pour l'instant, nous n'avons trouvé aucune trace de cet évadé.
Donc aucune trace, ça veut dire qu'on peut supposer qu'il est toujours à pied ou qu'il a emprunté un véhicule. On ne sait rien, il n'y a aucun indice.
Pour l'instant, aucun indice. Il faut peut-être rappeler qu'on a besoin aussi de la collaboration du public, que les citoyens ne doivent en aucun cas intervenir. Mais par contre, s'ils constatent des éléments troublants, s'ils pensent voir cette personne dont nous avons d'ailleurs diffusé la photographie, ils doivent immédiatement aviser la police via le numéro d'urgence 117 et donner un maximum d'éléments permettant d'orienter les recherches.
Oui, effectivement. Alors la question des recommandations à la population est tout à fait centrale. Est-ce qu'on peut être plus précis que ça ce soir, Jean-Christophe Sautrel? Admettons que quelqu'un rencontre cet évadé ou se fait aborder par cette personne, le reconnaisse. Comment est-ce qu'il faut se comporter en quelque sorte avec lui?
Il faut éviter d'entrer en contact avec cette personne. Il faut surtout pas vouloir le maîtriser ou faire mine de le reconnaître, mais passer son chemin et le plus rapidement possible, au moyen d'un téléphone portable ou d'une ligne fixe, immédiatement aviser la police via le numéro 117.
Jean-Christophe Sautrel, la nuit dernière, vous avez cessé les recherches?
Les recherches ont été poursuivies jusqu'à passer 3h du matin. Nous avons encore engagé d'ailleurs pour une deuxième fois un hélicoptère de l'armée qui a sillonné toute la région de Provence au moyen de caméras thermiques. Ça n'a malheureusement donné aucun résultat. Les patrouilles sont restées dans le secteur pour l'ensemble de la nuit et les recherches avec un dispositif beaucoup plus conséquent, puisqu'on a encore augmenté l'effectif durant cette journée de mardi, ont repris ce matin. Mais il y avait en permanence des patrouilles qui étaient dans le secteur.
Et cette nuit, même opération?
Pour la nuit, nous verrons, il s'agira d'une appréciation qui sera faite par les responsables opérationnels, mais de toute façon, un dispositif sera maintenu dans le secteur dans tous les cas. Ça dépendra aussi des éléments qui parviendront à notre connaissance. Il faut savoir que le secteur lui-même en tant que tel a été fouillé de manière assez minutieuse, que ce soit tous les chalets qui se trouvent par exemple au bord du lac. Il y a aussi toute une phase d'enquête qui a été menée par les inspecteurs et les gendarmes vaudois auprès des commerces et des lieux dans lesquels ils pouvaient se rendre. Donc une enquête de proximité pour essayer de trouver des pistes, des points de chute, des lieux où cet individu pourrait se rendre.
Oui, ça paraît assez fou, c'est vrai. Le forcené de Bienne, on avait mis 2 semaines, enfin la police avait mis 2 semaines à le trouver. Là, vous donnez une limite, vous fixez un temps durant lequel vous allez mener ces opérations.
Il n'y a pas de limite, simplement qu'il faut que la police ait des éléments concrets pour orienter ses recherches. Là, maintenant, on a fait des recherches générales dans le secteur, mais il faut qu'on ait des éléments supplémentaires après pour pouvoir encore poursuivre des recherches plus précises. Mais tant qu'on n'aura pas retrouvé, des opérations seront menées et la police sera attentive avec ses partenaires, comme la Gendarmerie nationale française et le Corps des gardes frontières.
Jean-Christophe Sautrel, vous êtes le porte-parole de la police cantonale vaudoise. Je vous remercie. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Et puis on va revenir évidemment sur les défaillances qui ont pu permettre cette évasion. Le responsable de l'application des peines du canton de Berne rejette toute responsabilité de ses services dans cette évasion. Elle s'est passée hier. Ce dernier, le détenu, était incarcéré à la prison de Bellevue, à Gorgier, dans le canton de Neuchâtel. Maurice Ducasse.
Cet homme qui a passé plus de 40 ans de sa vie derrière les barreaux avait été condamné par la justice bernoise, mais il purgeait sa peine dans un établissement pénitentiaire neuchâtelois en vertu d'accords intercantonaux. Quant au responsable de l'application des peines du canton de Berne, il ne se sent pas responsable de ce qui s'est passé hier. Christian Margot estime que c'est la prison de Gorgier qui a pris la responsabilité d'organiser la sortie du détenu.
Cette sortie était une promenade accompagnée qui était sous la responsabilité de cet établissement pénitentiaire.
Ça veut dire que vous précisez bien que s'il a pu bénéficier d'une promenade hier, c'est une décision prise par l'institution qui le détenait.
C'est juste, cette prison était aussi responsable de garantir la sécurité.
D'une manière générale, vous ne vous sentez pas du tout responsable de ce qui s'est passé hier.
Absolument. Le canton de Berne a placé à Bellevue ce détenu dans un milieu fermé et nous ne sommes pas satisfaits de la situation. C'est une personne dangereuse et nous n'aurions jamais imaginé qu'il puisse évader.
Ces sorties accompagnées font partie d'une disposition du code pénal. On y prévoit en effet des sorties d'aération pour les détenus qui ont de très longues peines. On les emmène hors de la prison pour qu'ils reprennent contact avec le monde extérieur. Christian Margot précise que ce type de sortie accompagnée existe aussi dans une prison comme celle de Thorberg dans le canton de Berne. Mais le responsable de l'application des peines du canton de Berne précise aussi que l'on va réétudier le dossier du fugitif. Christian Margot.
Nous allons réexaminer le cas complet et nous allons discuter d'une éventuelle suppression de ces sorties accompagnées. Mais il est encore trop tôt pour prendre une telle décision.
L'administration pénitentiaire bernoise estime en outre avoir fait le bon choix en choisissant la prison de Bellevue. La preuve, explique Christian Margot, ça n'est pas de la prison que le fugitif s'est enfui, mais lors d'une promenade.
Merci Maurice Ducasse.
Avec nous Georges Lapra, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'office pénitentiaire Genevois. Georges Lapra, le temps aujourd'hui rappelle le parcours de ce prisonnier. Vous pouvez confirmer qu'il est passé par Genève, par chez vous, entre guillemets?
Effectivement, bon, il y a une vingtaine d'années, il a exécuté une dizaine d'années de prison sous la responsabilité du canton de Genève.
Georges Lapra, on apprend, on entendait le responsable bernois qui effectuait une promenade accompagnée, ce détenu jugé quand même dangereux. Est-ce que c'est courant? Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que c'est normal qu'on effectue ce genre de sortie accompagnée?
Écoutez, il peut y avoir des sorties accompagnées. Donc, dans le cadre d'une exécution d'une longue peine ou dans le cadre d'exécution d'une mesure, il est prévu de faire un plan d'exécution de la sanction pénale, mais dès que l'autorité de placement, en l'occurrence l'autorité qui est chargée de l'exécution de la peine ou de la mesure, a le moindre doute, à Genève mais ailleurs aussi, elle sollicite en fait l'avis de la commission d'évaluation de la dangerosité, qui est composée à Genève, alors il y a un procureur, un psychiatre et quelqu'un de l'office pénitentiaire, et qui évalue finalement le degré de dangerosité de la personne et qui donne un préavis, afin de voir si effectivement ce qui est proposé est faisable ou pas. Et en cas de doute, évidemment, c'est le principe de précaution qui s'applique. et le préavis est défavorable.
Là, manifestement, la commission de dangerosité s'est un tout petit peu trompée.
Alors, je ne connais pas du tout le cas particulier puisqu'il était géré par les Bernois. J'ai entendu M. Margot tout à l'heure qui rejette la responsabilité.
Sur les Neuchâtelois.
Sur l'établissement. Mmh. Alors, à Genève, voire pour les condamnés genevois, il n'y aurait pas de sortie sans l'aval express et la signature de l'autorité d'exécution, du SAPEM en l'occurrence.
Est-ce qu'on peut dire, Georges Laprac, que, enfin, ça étonne beaucoup de monde, hein, qu'il y ait une sortie accompagnée de gardiens qui n'avaient pas d'armes. Ça, c'est un point qui étonne beaucoup. Ça vous paraît normal?
Écoutez, lorsqu'on a affaire à des gens dangereux, ou pour lesquels le risque est important, on a plusieurs possibilités d'accompagnement pour les sorties. Ça peut aller du groupe d'intervention, vraiment la sécurité maximum, en passant par une conduite avec la police, et le cas échéant, après plusieurs étapes, éventuellement avec des agents de détention qui, en général, ne sont pas armés.
Oui, mais là, manifestement, on a cru qu'il était sorti de cette zone où ça nécessite un accompagnement un tout petit peu plus renforcé.
Alors, je ne connais pas le dossier, donc je ne peux pas répondre sur le cas précis. J'ai entendu M. Margot, c'est tout ce que je peux dire.
Est-ce qu'on peut dire, Georges Laprac, parce que ce détenu, hein, jugé dangereux, s'est évadé. Là, manifestement, quelque part, il y a eu une mauvaise décision, ma foi.
Alors, la décision du service placeur, donc, il choisit l'établissement qui représente en général le risque maximum lorsqu'il y a des dangers. On sait toujours que la chaîne casse, si vous me passez l'expression, là où le maillon est le plus faible. Donc, l'établissement de Bellevue représente une sécurité importante, mais on voit qu'effectivement, il n'est pas parti depuis cet établissement, mais qu'il est parti au cours d'une conduite. Après, la manière dont la conduite s'est passée, l'enquête le démontrera. Mais pour l'instant, s'il y a une conduite à faire pour un détenu dangereux, ce qui peut arriver, eh bien, c'est à l'autorité de placement, avec l'appui des avis, en fait, de la commission de dangerosité, qui va dire comment, et puis si on l'a fait. Il est possible, d'ailleurs, qu'on refuse ce type de conduite.
La commission de dangerosité, il y a des psychiatres, j'imagine?
Oui, il y a un psychiatre, effectivement, qui y siège.
De plus en plus de poids sur leurs épaules, c'est ce qu'on dit dans le domaine carcéral, judiciaire, aujourd'hui?
Pas seulement, parce qu'on voit, par exemple, à Genève, c'est un procureur, un psychiatre et quelqu'un de l'office pénitentiaire. Donc c'est assez équilibré.
Est-ce que selon votre expérience, on constate quand quelqu'un a passé beaucoup d'années, de nombreuses années, comme c'est le cas ici derrière les barreaux, une forme de laxisme parce que la personne est en prison depuis 40 ans, 30 ans, et puis on est moins regardant du coup sur la sécurité, de façon inconsciente peut-être.
Vous entendez laxisme de la part du service placeur ou de la part
tout
de l'établissement?
Tout à fait, oui.
Alors, normalement, il ne faudrait pas. Je crois qu'on ne doit pas avoir ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire s'habituer finalement à ce que la personne, parce qu'elle se comporte bien, donne des gages et puis à qui il faut faire. Finalement, on fait confiance parce qu'on s'habitue à la personne. D'ailleurs, souvent, ce genre de personnes change d'établissement régulièrement pour éviter justement d'avoir une habitude trop grande. Et un relâchement de l'attention.
On a l'impression d'un paradoxe, Georges Laprac, sur le principe même de ces courses, de ces sorties, de ces promenades, qu'on les appelle, de quelque façon qu'on les appelle. C'est des gens qu'on ne laisse pas sortir. Souvent, ils sont internés pour très longtemps, une durée indéterminée. Puis en même temps, ils ont ces promenades. Vous admettrez qu'il y a un certain paradoxe?
Alors, dans le cadre, le code pénal prévoit plusieurs choses. Il prévoit d'abord un plan d'exécution de la sanction pénale, tant pour la peine, qui est une durée déterminée, que pour la mesure, qui, elle, est indéterminée. Donc il faut effectivement prévoir et donner finalement une perspective dans l'exécution de la mesure. Alors intramuros, ça peut être tout à fait avec une formation à l'intérieur de la prison, etc. Voire parfois à long terme avec des tests en quelque sorte extramuros, mais ces tests doivent être faits dans des conditions telles que ces tests réussissent.
Ça aurait pu arriver à Genève ce qui vient de se passer, Georges Laprac?
Écoutez, a priori, un accident est toujours possible, mais normalement c'est de la responsabilité de l'autorité d'exécution des peines et mesures, c'est ce que disait M. Margot. Si M. Margot du canton de Berne dit que l'établissement a pris cette responsabilité, je ne sais pas de quelle façon ça s'est fait, évidemment, on ne peut pas exclure que ça se passe, mais à Genève, normalement, c'est véritablement, j'allais dire, verrouillé.
C'est plus verrouillé qu'ailleurs.
Bah écoutez, sans doute, mais c'est toujours quand il y a un accident qu'on s'interroge sur la manière dont les choses fonctionnent.
Je vous remercie beaucoup de votre éclairage, Georges Laprac. Vous êtes directeur de l'office pénitentiaire Genevois. Une excellente soirée à vous.
Je vous en prie. Bonne soirée.
Écolis, C'est l'épidémie hors de contrôle dans l'Union européenne. Un nouveau décès en Allemagne, deux nouvelles hospitalisations à Bordeaux, ce qui porte à 9 le nombre de cas répertoriés en Aquitaine. La bactérie E. coli continue donc de frapper. Dans leur majorité, les malades ont ingéré des graines de germée, mais il y a aussi des steaks hachés. En Gironde, ces graines viendraient à présent d'Italie. Donc c'est un véritable casse-tête sanitaire européen et on va tenter d'en faire le point avec vous, Frédéric Vincent. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le porte-parole du commissaire européen à la santé. E. coli, je disais, une épidémie hors de contrôle.
Non, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'épidémie est hors de contrôle. Il est vrai que l'Union européenne traverse depuis maintenant plusieurs semaines une crise exceptionnelle par son ampleur et par le coût humain. Hein. On est à près de 50 morts en Allemagne, mais on est face à une souche différente des souches habituelles de l'E. coli. C'est le E. coli 0104, qui est une souche extrêmement forte et qui a été rarement rencontrée dans l'Union européenne.
Est-ce que, si c'est le cas aujourd'hui, vous rencontrez cette différente souche, ça veut dire qu'il y a des barrières, des règlements, une surveillance sanitaire qui a fait défaut ?
Non, je pense pas. Au contraire, ce qui se passe actuellement montre que le système de traçabilité et de surveillance dans l'Union européenne fonctionne. L'Union européenne a maintenant depuis plus de 30 ans un système qui s'appelle le RAFS, un acronyme anglais qui veut dire système d'alerte rapide pour la nourriture, auquel participe d'ailleurs la Suisse, qui permet de tracer très rapidement l'origine des aliments. Hein. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, avec quelques ratés peut-être au départ, mais ceci a été réglé à la fin. Et c'est ce qui s'est passé en France. En quelques jours, ou plus en quelques semaines, on peut savoir d'où viennent tous les aliments dans l'Union européenne, notamment les aliments frais.
Quelques ratés, quelques tensions diplomatiques aussi. Frédéric Vincent, la Grande-Bretagne apprécie très peu évidemment les accusations du côté français à l'encontre d'un de leurs distributeurs de graines germées. L'Allemagne avait considérablement fâché l'Espagne en accusant leurs concombres. Comment est-ce qu'on peut calmer le jeu ? C'est un peu votre rôle aussi de le faire ?
Oui, la Commission européenne est un petit peu au centre du jeu puisque c'est elle qui maintient le système en place et qui coordonne toutes les actions à la fois sur la santé humaine mais surtout sur la sécurité de la chaîne alimentaire avec les États membres. Donc on est là pour faire passer les informations, échanger les informations. Il y a tous les jours des réunions, des audioconférences, etc. sur ce dossier pour faire le point avec les États membres. Il ne faut pas tomber dans le piège de blâmer un tel ou un tel. Hein. Et le commissaire européen, John Dalli, l'a encore dit aujourd'hui au ministre européen de l'Agriculture, il faut que vous soyez sûr de ce que vous mettez dans le système quand vous informez sur des risques potentiels chez vous.
Mais concrètement, vos armes aujourd'hui, on comprend bien, information, coordination, mais vos armes pour lutter contre cette épidémie, vous l'avez dit, qui fait des morts, ce sont quoi ces armes ?
Alors, il faut savoir qui fait quoi dans ce genre d'affaires, et en particulier effectuer des vérifications vétérinaires, par exemple, ou sanitaires, et de la compétence des États membres de l'Union européenne. Il n'y a pas d'une armée de vétérinaires européens qui irait aux quatre coins de l'Europe pour vérifier les choses. Et parfois, au sein d'États membres, je pense à l'Allemagne, par exemple, cette compétence est du ressort des autorités régionales, des Länder en Allemagne. Donc, l'Union européenne est là pour faire le point avec les États membres, mais c'est de leur compétence et de leur responsabilité d'informer l'Union européenne, la Commission et les autres États membres de ce qui se passe chez eux.
Et l'Union est là aussi pour dédommager financièrement, parce qu'on parlait de politique, mais l'économie, l'agriculture espagnole va toucher des sous de l'Union européenne. Et là, on apprend aujourd'hui que la société française qui produisait donc ces steaks hachés dépose le bilan aujourd'hui, après 30 ans d'activité. C'est lourd. Là aussi, ça va coûter combien au fond cette affaire à l'Union européenne ?
Il y a un accord qui a été signé entre ministres de l'Agriculture européen il y a quelques jours, qui prévoit effectivement une indemnisation à hauteur de 210 millions d'euros pour les producteurs, notamment de légumes européens. Oui, il y a un coût, mais il faut aussi savoir que la politique agricole est une véritable politique intégrée à l'échelle européenne. Hein. C'est l'argent de Bruxelles, entre guillemets, que pour parler simplement, que l'on dépense sur les questions agricoles. Donc l'Union européenne est effectivement venue au secours des États membres qui sont en difficulté.
Frédéric Vincent, vous êtes le porte-parole du commissaire européen à la santé. Merci d'avoir fait le point
Merci
ce soir avec
vous.
Nous. Bonne soirée.
Au revoir.
Le Corbusier n'entre pas au patrimoine mondial de l'humanité. L'UNESCO refuse une nouvelle fois d'honorer l'œuvre de l'architecte franco-suisse. Comme en 2009, la candidature est renvoyée avec une demande de remaniement. Avec nous, Jean-Louis Cohen, bonsoir.
Bonsoir.
Cet architecte et historien, professeur à l'Université de New York, auteur notamment d'un livre sur le Corbusier, La planète comme chantier, c'est son titre, Jean-Louis Cohen. Ce projet ne tient pas la route, un nouveau refus devant l'UNESCO, comment vous l'expliquez ?
Écoutez, c'est un projet problématique pour beaucoup de raisons, c'est pose des problèmes de méthode à l'UNESCO et qui en a posé à l'ICOMOS, qui est l'organisme qui expertise les projets pour le Comité du patrimoine mondial. Le problème, c'est qu'il s'agit d'un réseau d'œuvres et pas simplement, comme c'est souvent le cas pour les projets de l'UNESCO, d'un territoire, d'une ville ou d'un ensemble de bâtiments situés dans la même ville, puisqu'il s'agit en fait de 19 projet de 19 bâtiments, de 19 sites, dont 3 d'ailleurs en Suisse, et qui un projet qui est déposé par 6 pays, la France, l'Allemagne, l'Argentine, la Belgique, le Japon et la Suisse. Et donc c'est un projet qui, au-delà de la personnalité de l'œuvre encore controversée de Le Corbusier, j'y reviendrai si vous le voulez bien, pose des problèmes de méthode. Peut-on commencer sur cette liste du patrimoine mondial qui ne cesse de s'étendre? Peut-on inscrire de plus en plus d'ensembles qui sont des ensembles discontinus de ce genre? Apparemment, le Comité du patrimoine mondial pense que non.
Oui, est-ce qu'il faudrait simplement restreindre la liste, Jean-Luc Cohen, se contenter de 2 ou 3 monuments, bâtiments de Le Corbusier en France, par exemple?
C'est possible. Alors, on pourrait imaginer de proposer simplement 3 bâtiments français, ou bien la Villa Savoie, ou bien Ronchamp. Je pense que ça ne rendrait pas justice à l'œuvre de Le Corbusier. Il y a quelques ensembles déjà sur la liste du patrimoine mondial, comme par exemple les ensembles des bâtiments de Gaudi à Barcelone, qui sont dispersés dans la même ville. Je ne suis pas sûr, quant à moi, que la fondation Le Corbusier, qui est basée à Paris, dans le conseil de laquelle j'ai siégé pendant 18 ans, soit prête à relancer une candidature aujourd'hui. Et si vous voulez, j'ai tendance, derrière le caractère apparemment rationnel de la décision du comité et sur le conseil de l'ICOMOS, toute une série d'arguments ont été avancés sur le fait qu'il s'agissait d'un ensemble arbitraire, mais c'est vrai que on ne pouvait pas y mettre Champ d'Igard car les Indiens ne protègent pas les sites récents, donc un élément important de l'œuvre de Le Corbusier manquait. Son principal bâtiment de l'entre-deux-guerres, le centre Soyouz à Moscou, est fermé au public et donc pouvait pas être inclus sur la liste. Donc c'est vrai que des bâtiments manquaient, mais il n'empêche que ce que je lis, si vous me le permettez, dans ce refus, c'est une nouvelle expression d'une sorte de haine vis-à-vis de Le Corbusier, haine dont ses compatriotes suisses se sont parfois aussi fait les porteurs. Et je citerai à ce propos cette magnifique phrase d'André Malraux, le ministre de la Culture du général de Gaulle, lors des obsèques de Le Corbusier en 1965 dans la cour carrée du Louvre. Malraux avait dit « Aucun n'a signifié avec une telle force la révolution de l'architecture parce qu'aucun n'a été si longtemps, si patiemment insulté. » Et il ajoutait « La gloire trouve dans l'outrage son suprême éclat, et cette gloire-là s'adressait à une œuvre plus qu'à une personne qui s'y prêtait peu. » Donc je considère que l'outrage qui est fait aujourd'hui à Le Corbusier ne fait que consolider sa gloire.
Oui, Jean-Louis Cohen, on entendait encore hier soir Pierre Frey sur nos ondes, hein, qui rappelait ses affinités, ses amitiés, sa fréquentation d'Hitler, de Staline, de Pétain.
Non, je vous arrête tout de suite.
Oui, ses lettres, notamment des lettres envoyées à sa mère.
Non, mais c'est une imposture. Que Le Corbusier qu'il a essayé de vendre ses projets à Staline ou à Mussolini, c'est incontestable. Il ne l'a jamais fait en Allemagne pour une bonne raison, c'est qu'il était, je l'ai démontré, violemment anti-allemand. Et donc il n'a jamais été pro-nazi. C'est une falsification à laquelle certains auteurs se sont livrés que de dire qu'il a été pro-nazi. Ça n'est pas vrai. Il a été pro-Pétain, mais c'est une toute autre chose.
Oui, c'est une toute autre chose. Pierre Frey citait hier une lettre qu'il avait écrite à sa maman pour dire qu'il espérait qu'Hitler lui permette de réaliser ses projets.
Non, cette lettre qui est sortie de son contexte est la seule phrase que l'on peut imputer à Le Corbusier, et elle a été très mal interprétée par Monsieur de Roulet et quelques autres.
Oui, Jean-Louis Cohen, mais on va pas refaire ce débat effectivement sur Le Corbusier qui avait notamment touché la campagne de publicité de l'UBS à l'époque, hein, toujours ses soupçons sur sa personne. Mais vous avez l'impression, sur le fond, que la Suisse, qui était associée à la France et d'autres dans la défense de ce dossier, a mal fait son travail pour aider Le Corbusier pour ces raisons-là?
euh, Je pense que c'est pas pour ces raisons-là que la délégation suisse a saboté la candidature. Permettez-moi de le dire d'après les informations qui sont en ma possession.
Elle l'a saboté.
Je serais peut-être accusé de diffamation, mais j'ai l'impression que la délégation suisse n'a pas voulu compromettre les chances d'autres projets suisses, notamment un projet sur les cités lacustres, sur les palafites, qu'elle a essayé de ménager, d'apparaître comme dans une espèce de neutralité bien traditionnelle, dans l'attente d'une prochaine session du Conseil du patrimoine mondial, précisément censé se tenir dans la Confédération. Donc la Suisse, pour dire le moins, n'a pas aidé à l'avancée de ce dossier. Pour dire ce qui est sans doute la vérité, elle en a saboté la présentation.
Ben voilà qui est clair, Jean-Louis Cohen. Je vous remercie de la clarté de vos propos ce soir en direct. Vous êtes architecte et historien, auteur de plusieurs livres sur Le Corbusier. Je vous remercie d'être venu quelques instants avec nous. Bonne
Merci
soirée.
De votre écoute.
Au revoir. Et puis Yves Nideguer nous a rejoint en direct de notre studio de Genève. Bonsoir Yves Nideguer.
Bonsoir.
Alors vous êtes avec nous parce que vous êtes candidat officiel de toute la droite à Genève pour la Cour des comptes. La Cour des comptes genevoise, ça on l'a beaucoup commenté. Alliance entre l'UDC et le centre droit. En échange, l'UDC ne lance personne au Conseil des États et laisse le ticket de centre droit y aller tout seul. Mais ce qui nous intéresse en particulier, Yves Nideguer, c'est peut-être la vraie nouvelle là derrière, qui est peut-être passée un peu inaperçue, c'est que ça pourrait bien être la fin de votre carrière politique, puisqu'il n'est pas possible de siéger à la Cour des comptes et au Parlement fédéral. Et puis du coup, on vous pose la question, Yves Nideguer, vous qui étiez un des espoirs du parti qui avait fait cette législature avec beaucoup de passages dans les médias, beaucoup d'influence à Berne aussi. Vous étiez bien noté en tous les cas, Yves Nideguer, à vos débuts à Berne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez arrêter?
Ah, je veux pas arrêter. J'étais, je vous rappelle, candidat en 2009 pour le Conseil d'État, avec exactement les mêmes conséquences si les conditions à l'époque avaient été données pour que je sois élu, à savoir que je ne pourrais avoir à la fois une carrière de parlementaire fédéral et en même temps une carrière cantonale. Je considère pour ma part que la Cour des comptes ou le Conseil d'État, c'est deux institutions d'égale dignité, où l'on peut agir cantonalement de manière assez profonde. Si vous allez au Conseil d'État, ben vous êtes 1/7, on vous donne un département et les grandes lignes sont fixées collégialement par les 7 personnes qui votent. À la Cour des comptes, vous êtes 3 magistrats flanqués de suppléants. Et puis vous avez pour mission de regarder l'état de Genève et tout ce qui va avec à travers ses habits afin de vous assurer que le citoyen qui paye pour tout cela s'y retrouve, non seulement en termes de légalité, mais aussi en termes d'opportunité des dépenses, ce qui est pile poil dans le programme de mon parti depuis des années et des années.
C'est un peu moins flamboyant qu'un siège à Berne, Yves Nideguer.
C'est vrai.
Pourquoi renoncer à ça?
C'est pas le même rythme. Hein. À Berne, vous passez très rapidement d'un dossier à l'autre, des quantités de fois par jour. À la Cour des comptes, vous avez un rythme plus lent et une profondeur du coup plus importante. Non, on peut tout à fait vivre sans être tous les soirs à Forum ou toutes les semaines.
Oui, on peut survivre.
Oui, tout à fait.
Mais Yves Nideguer,
C'est pas la fin de tout. La Cour des comptes a aussi des moments où elle apparaît dans les médias, quand elle publie ses rapports.
Aujourd'hui encore, d'ailleurs.
Mais bien sûr, et c'est son rôle. C'est vrai, le côté flamboyant, battleur d'estrade, ça sera pas pour moi pour quelques années. Mais je trouve pas que ça soit moins excitant, moins intéressant, et en tout cas pas moins profond.
Yves Nideguer, il y a eu cette affaire à l'UDC Genève, on ne va pas revenir sur les détails, Sully Pardo à la présidence, il y a eu une lutte de pouvoir, pas mal d'épisodes qui ont suivi. Est-ce que vous avez été, disons les choses clairement, un peu mis de côté par le parti national qui aimerait faire émerger cette jeune figure, Céline Amaudru, la présidente du parti cantonal, qui se présentera au national? Est-ce qu'ils aimeraient mieux la voir, elle, que vous, siéger à Berne?
Mais elle a émergé, d'ailleurs je suis celui qui a beaucoup travaillé pour que cela arrive, c'est moi qui ai cru en elle et c'est, je pense, je suis la personne principale dans le fait qu'elle ait émergé. Probablement vous faites référence à un agacement assez légitime de l'UDC suisse, s'agissant de sa section du bout du lac, parce qu'en Suisse on n'arrive pas à comprendre qu'à Genève, mais ça c'est tout parti confondu, on est politiquement psychopathe, c'est vrai à gauche, c'est vrai à droite, dont on dit qu'elle a la plus belle, la droite la plus idiote qui existe. Alors là, elle est en train de faire des progrès grâce à nous. Et c'est vrai que l'UDC genevoise a tendance, comme les autres partis genevois, à avoir des frivolités qui peuvent être agaçantes vu de Berne. Non, c'est pas cela, c'est simplement que...
Ça ne va pas chagriner l'UDC suisse, le fait que peut-être Céline Amaudru vous remplace à Berne. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça?
Mais on aurait tout à fait pu avoir Céline Amodru à Berne et Yves Nideguer aussi. Je suis persuadé que l'UDC a suffisamment de voix pour avoir deux, pour conserver ses deux sièges. Nous avions 21,5% en 2007. Il suffit de 16,8% pour avoir deux sièges. Même si nous perdions quelques plumes, et jusqu'à maintenant nous n'avons jamais perdu plus qu'1% face au MCG, nous sommes encore largement acquis pour nos deux sièges. La question n'est certainement pas là.
Yves Nideguer, quand vous avez commencé à Berne, vous êtes arrivé comme le premier roman intellectuel, vous étiez engagé dans la communication aussi du parti, il fallait arrêter de faire une communication zurichoise puisque les moutons avaient choqué en Suisse romande. Il y avait tout un tas d'espoir comme ça sur vos épaules. Aujourd'hui, vous parlez de Berne un peu nonchalamment en disant non, je peux trop bien m'en passer, puis finalement j'ai autant de pouvoir à la Cour des comptes de Genève. On peine un peu à vous croire. Vous avez été un peu maltraité par cette UDC zurichoise, ils n'ont pas tellement apprécié que vous arriviez comme ça en force.
Non, je crois qu'on romance un peu beaucoup tout cela quand on est journaliste et qu'il faut trouver de l'audience pour le soir. En 2008, tout le monde voulait avoir ses deux pages pleines sur Yves Nideguer, dont on espérait qu'il réforme l'UDC tout entière. Et on disait de moi que j'étais promu même au Conseil fédéral.
Vous le disiez vous-même, Yves Nideguer.
Non, mais on me présentait comme tel, donc je n'allais pas dire non. Mais j'ai jamais été candidat au Conseil fédéral, ça aurait été absurde vu mon jeune âge politique. Et puis, voilà, on attendait de moi des choses bouleversantes. Et puis, aujourd'hui, à entendre certains autres journalistes, je vaudrais beaucoup moins. Je crois que tout ça est exagéré dans les deux cas. Je n'étais pas le génie qui allait révolutionner l'UDC à lui tout seul à l'époque. Je ne suis pas non plus mort politiquement aujourd'hui. Au contraire, je crois que l'accès à la Cour des comptes est plutôt prestigieux, et pour mon parti et pour moi. Et puis avoir réussi à fédérer l'ensemble de la droite dans des circonstances bien particulières, bien sûr, mais y être arrivé néanmoins du PDC jusqu'à l'UDC, ce n'est pas faire preuve de faiblesse politique, sachant ce qu'est la droite à Genève, c'est-à-dire indécrottablement divisée, mortifère et suicidaire. Aujourd'hui, la droite a envie de vivre, elle a même envie de flanquer une raclée à la gauche qui apparaît en plus désunie. Donc non, je ne suis pas votre analyse pessimiste sur tout cela.
Merci beaucoup, Émile Lagarde, d'être venu nous partager votre analyse de votre avenir proche et de celui de votre parti, et celui de la droite suicidaire genevoise, comme vous le dites. Une excellente soirée à vous.
Bonne soirée.
Eh bien, l'UDC, il en est encore question. Elle est consternée à Berne par les propositions du groupe de travail concernant l'application de la fameuse initiative sur le renvoi des criminels étrangers. C'est un rapport qui présente 4 variantes. Or, pour l'UDC, les 3 variantes proposées par la majorité du groupe sont des copier-coller du contre-projet qui avait été rejeté par le Peuple et les Cantons en novembre 2010. Alors, seule la variante 1 est jugée bonne. Et évidemment, elle émane des 2 représentants du comité d'initiative au sein de ce groupe de travail. Pierre Yenny, les avis entre majorité et minorité semblent inconciliables.
Oui, et c'est surtout le principe de proportionnalité qui fâche avant tout l'UDC. Les propositions de la majorité prévoient en effet qu'un criminel étranger ne peut être expulsé que lorsqu'il est condamné à une peine de 6 mois au moins pour la variante 2, à plus de 6 mois pour la variante 3. Des propositions inacceptables pour les démocrates du centre qui jugent que 85% des délinquants étrangers passeraient ainsi entre les mailles du filet. Or, le peuple et les cantons ont accepté l'initiative sans ce principe de proportionnalité. Les variantes de la majorité du groupe de travail ont donc un arrière-goût de contre-projet. Et souvenez-vous, ce même contre-projet avait été rejeté par le peuple et par tous les cantons. Du coup, l'UDC estime que ce rapport bafoue la volonté populaire.
Et du coup aussi, Pierre Yenny, ces divergences permettent à l'UDC d'occuper le terrain durant tout l'été, avant les élections fédérales.
Eh oui, le parti a déjà annoncé qu'il allait plancher durant l'été sur un rapport complémentaire pour faire appliquer l'initiative. Les explications de Tony Brunner, président de l'UDC Suisse.
Nous allons travailler cette proposition de mise en application de notre initiative et rédiger un rapport complémentaire détaillé que nous présenterons après cet été. Nous allons le soumettre au Conseil fédéral et nous nous engageons à ce que la volonté du peuple soit respectée, car le travail de la majorité de ce groupe est un non-respect crasse de la volonté populaire.
L'UDC va donc maintenir la pression ces prochains mois, de quoi lui assurer une présence médiatique supplémentaire jusqu'aux élections fédérales et même au-delà, car le Conseil fédéral devrait mettre en consultation son projet en fin d'année, voire au début 2012. Puis ce sera le débat aux chambres et si la mise en application qui sera votée ne convient pas à l'UDC, le parti a déjà annoncé qu'il lancera une nouvelle initiative populaire pour introduire dans la Constitution sa propre variante d'application.
Pierre Yenny en direct du Palais fédéral, merci.
Catherine Labouchère, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes la présidente des libéraux vaudois, puis vous arrive une tuile, hein, comme on appelle ça en langage familier, un rebondissement dans la campagne électorale. Votre candidat Jean-Marie Sauer se retire de la course, c'était votre candidat au Conseil des États aux côtés de la radicale Isabelle Moret, il se retire aussi du National. Coup dur, hein?
Oui, mais enfin, vous savez, on est là pour faire face aux défis.
Et comment vous allez faire face, justement? Est-ce que vous allez présenter un autre candidat libéral?
Écoutez, je crois qu'on est légitimé par notre congrès qui a, le 5 avril, voulu une stratégie. Nous allons proposer de nouveaux candidats. Vous savez, on a une liste relativement forte pour le Conseil national. Il y a déjà deux des candidats qui se sont mis à disposition. Et je pense que c'est une bonne chose. Après, ce sera naturellement au comité directeur, puis ensuite au congrès qui décidera, parce que c'est toujours là.
Qu'est-ce que vous voulez dire, deux candidats qui se sont mis à disposition?
Oui, j'entends aussi bien Mathieu Blanc que Fatih Derder a dit qu'ils étaient à disposition. Alors, on verra s'ils veulent maintenir, devenir entre proposition à disposition et devenir candidat. Moi, je pense que c'est déjà tout à fait intéressant qu'ils se soient proposés spontanément.
Est-ce qu'il ne faudrait pas y aller un tout petit peu plus vite, Catherine Labouchère? L'incertitude, ce n'est pas très bon, non? S'ils sont si bons, pourquoi pas les présenter ce soir déjà?
Non, écoutez, je pense que là, il y a quand même une procédure. Vous savez, aujourd'hui, on a eu un coup relativement important. Je crois que prendre des décisions dans l'émotionnel, c'est jamais bon. Diriger un parti, c'est aussi savoir se calmer et pas prendre les choses de façon trop dramatique.
Vous-même, candidate aux États, pourquoi pas, Catherine Labouchère?
Non, je crois que quand on dirige un parti, on est là pour soutenir le parti, conduire le parti et faire des volte-face tout le temps. Je ne crois pas que ce soit très sage.
Mais on peut dire ce soir, Catherine Labouchère, que vous allez présenter un candidat au Conseil des États, les libéraux?
Ah oui, en tout cas au Congrès, on présentera quelqu'un, ça c'est sûr.
Ça ne va peut-être pas plaire particulièrement à, pourquoi pas, la radicale Isabelle Moret, qui se verrait peut-être plus facilement avec un UDC, le ticket unique dont on rêve, dont on parle dans certains milieux. Face au ticket uni de la gauche?
Mais écoutez, je crois que, vous savez, il y a beaucoup de rêves en politique. Après, il faut voir ce qui est réaliste. On est en constant dialogue avec Mme Moret. Notre responsabilité de dialogue aussi avec les radicaux, c'est d'envisager toutes les possibilités. Je crois qu'on va faire ça ces prochains jours, une fois que, je dirais, l'émotion sera retombée.
Comment vous allez faire pour les convaincre, les radicaux, qu'il est nécessaire de présenter tout de même un libéral?
Alors écoutez, je crois qu'aujourd'hui, ils l'ont manifesté aussi, que la stratégie qu'ils ont développée vraiment en collaboration avec nous, où ils désiraient la maintenir. Là, je crois qu'on est en collaboration constante avec eux. Et changer de faire des volte-face, ce n'est pas la chose intelligente quand il arrive un coup dur.
Vous ratez peut-être l'occasion historique, le ticket resserré, UDC radical, okay. Moret, Mermou, non?
Bon, écoutez, ça, je crois que tout le monde imagine des tickets idéaux. Je crois que l'histoire nous a appris qu'on peut toujours rêver l'idéal, il arrive rarement. Je crois qu'on est pragmatique. Si le Congrès nous pose des questions et choisit une autre stratégie, eh bien, on suivra. Mais je crois que notre responsabilité, c'est d'abord de remplir notre mandat.
Donc vous irez avec un candidat encore inconnu. Pour le profil, pour l'image du parti, c'est pas très bon, ça, quand il y a...
Écoutez, moi, je pense que la précipitation est tout aussi mauvaise. Quand on reçoit une nouvelle un jour et que immédiatement on a le remplaçant, je pense que ça, c'est le rêve des médias. Nous, on prend juste un tout petit peu le temps de réfléchir.
C'est le rêve de certains partis aussi, je vous rassure, Catherine Labouchère. Annus horribilis, pour les libéraux, vous n'avez pas de sortant à Berne. On dit que votre siège est très en danger. Le nombre de candidats se réduit. Vous n'avez plus vraiment de... vous hésitez entre deux candidats. Enfin, vous avez le choix. Il n'y a pas vraiment de candidat naturel qui s'impose, franchement. C'est un peu difficile.
Complexe peut-être, mais vous savez, moi je crois un plat à la complexité. Je crois que ça fait partie de la vie. Dès qu'on travaille avec des gens et non pas des choses, ce genre de choses arrive.
C'est difficile.
Difficile, dirais complexe.
Complexe. Je vous remercie beaucoup, Catherine Labouchère, d'être
présidente des
Libéraux Vaudois. Bonne soirée.
Et après Neuchâtel, il n'aura pas fallu longtemps au canton du Jura pour annoncer une baisse d'impôts. Charles Juillard, le ministre des Finances, a présenté ce matin à la presse sa grande réforme de la fiscalité. C'est la plus importante depuis la création du canton. Charles Juillard, qui s'est arrêté tout à l'heure dans notre studio de Delémont avec cette bonne nouvelle, notamment pour la classe moyenne et les familles qui reverront donc leurs impôts baissés. Mais à long terme, c'est quoi le pari du gouvernement jurassien?
Bon, tout d'abord, c'est faire en sorte que les Jurassiennes et les Jurassiens voient leur facture fiscale allégée pour qu'ils puissent utiliser l'argent qui leur reste, le revenu disponible, qui est déjà bon dans le canton, mais qui va encore s'améliorer, à consommer et à faire vivre l'économie de ce coin de pays. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est essayer d'être attractif pour augmenter le nombre de contribuables, augmenter le nombre d'habitants, et ainsi faire en sorte que les prestations de l'État puissent être financées par un plus grand nombre.
Et puis les entreprises ne sont pas oubliées, hein, les allègements pourront être assez conséquents, jusqu'à 40% d'ici 2020. Vous êtes un peu le Jean Stouder jurassien, Charles Juillard?
Écoutez, les comparaisons, elles valent ce qu'elles valent. Je dirais qu'ici, nous devons effectivement regarder ce qui se passe un peu autour de nous et voir que dans les cantons voisins, parce que c'est surtout ceux-là qui nous intéressent, et en particulier le canton de Neuchâtel, c'est vrai, vous avez cité Jean Studer, ils ont entrepris une réforme fiscale ambitieuse pour les personnes morales, qui, à mon avis, est tout à fait justifiée.
Mais ce que craint la gauche, souvent, c'est-à-dire cette manière d'attiser la concurrence fiscale entre les cantons, qui pourrait déséquilibrer finalement la Suisse, c'est bien ce qui est en train de se passer. Neuchâtel baisse les impôts, vous pouvez pas tellement faire autrement, vous devez les baisser aussi.
Je dirais que nous sommes dans un monde globalisé, dans un monde où les gens n'hésitent pas à déménager pour économiser de l'argent au niveau des impôts, mais aussi surtout pour trouver des emplois. Et ce qui nous intéresse ici, c'est à la fois de créer des emplois intéressants, à forte valeur ajoutée, à plus forte valeur ajoutée, qui passent par une diversification de l'économie jurassienne. Et là aussi, nous allons entreprendre toute une série de mesures, mais une mesure fiscale qui est aussi en lien avec ça, c'est de défiscaliser les investissements qui seraient faits par des jurassiens dans des entreprises jurassiennes innovantes. Et à partir de là, ça veut dire que si vous mettez, je sais pas, 10 000 francs comme capital risque dans une entreprise innovante, vous pourrez déduire de vos impôts. Là, c'est aussi un effet d'appel à des investisseurs d'autres cantons qui pourraient être intéressés à développer des entreprises chez nous, par exemple, en disant, venez vous établir, vous pourrez bénéficier de cette mesure et en même temps, vous voyez que la pression fiscale a baissé.
C'est pas sans risque ? Chargé hier, hein, ce genre de baisse d'impôts. Non, c'est pas sans risque.
C'est jamais sans risque.
Déjà, le financement.
Parce que la vie n'est pas sans risque, madame. Et le financement, bien sûr que...
25 à 37 millions de francs par an.
Oui,
hein, pour financer ces mesures. Alors, vous allez trouver où cet argent ? Enfin, comment vous allez financer ?
Alors, d'une part, nous acceptons de nous endetter quelque peu pendant 2 ou 3 ans, en particulier en 2012. Nous avons annoncé clairement dans notre programme de législature que si le Parlement acceptait nos propositions, ben, il faudrait aussi qu'il soit conséquent et qu'il déroge au frein à l'endettement, parce que le budget 2012 sera hors des critères du frein à l'endettement. Et ensuite, à partir de 2013 et 2014, nous revenons dans les critères du frein à l'endettement pour dégager un cash flow positif, d'après nos estimations, à partir de 2016-2017. Nous sommes alors parfaitement conscient que l'année prochaine, ça sera difficile, mais nous acceptons de nous endetter un peu, et puis les années suivantes devraient être meilleures.
On faisait des comparaisons, on a mentionné évidemment Neuchâtel. Canton de Berne, lui, prend des mesures d'austérité assez drastiques, après des années de baisse d'impôts. Voilà, ça pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez. Ça, il faudra l'assumer politiquement.
Mais bien évidemment que nous l'assumerons politiquement, madame. Mais nous sommes ici avec une proposition qui va nous ramener un peu plus proche de la moyenne suisse. Mais nous ne sommes pas encore à cette moyenne suisse pour un grand nombre de contribuables.
C'est assez fou, non, Charles Julien, d'avoir cette discussion aujourd'hui. Quand on sait ce qui se passe chez nos voisins, cette fois européens, même une région qu'on qualifie encore périphérique, comme le Jura, peut se payer le luxe de baisser ses impôts. Cette espèce de santé fiscale, économique, c'est quoi notre secret.
Le fait d'avoir toujours été raisonnable, d'avoir aussi une stabilité politique, d'avoir su négocier, discuter entre partenaires sociaux, plutôt que de décréter à coup d'annonces politiques, des réformes tous azimuts qui s'annulent en fonction des changements de gouvernement. La Suisse, on dit qu'elle ne va pas vite, que les processus décisionnels sont lents à prendre, certes, mais on progresse tout le temps, alors qu'on peut constater que dans la plupart des pays qui nous entourent, eh bien, on fait un grand pas en avant, puis on en fait 2 en arrière, de telle sorte que au bout du compte, on recule plutôt que d'avancer. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, je préfère être ministre des Finances jurassien que ministre des Finances grec.
Voilà la pensée de Charles Gillard pour Georges Papandréou. Il était avec nous tout à l'heure dans le studio de Télémont. Oui, on va continuer, effectivement, sur cette bonne lancée. On va parler de l'Office fédéral des migrations, l'ODM, qui connaît une passe difficile. Muriel Balamont, vous nous avez rejoint. Vous êtes procuré les résultats de l'enquête 2011 auprès du personnel. Alors, ce mauvais climat, l'ODM s'est fait ressentir alors qu'il était en cours de restructuration. Beaucoup de têtes avaient sauté, dont celle de son directeur, Edouard Gneza. Aujourd'hui, finie la restructuration. Mais les collaborateurs de l'ODM montrent leur insatisfaction.
Oui, les résultats de cette enquête sont sans équivoque. Ils sont presque systématiquement moins bon que la moyenne obtenue par le personnel de l'administration fédérale dans son entier. Et cela à cause de la restructuration ou pas de charge qu'ont dû subir les presque 800 collaborateurs de l'ODM.
Muriel, le chiffre qui frappe, c'est que presque la moitié du personnel ne soutient pas les processus de changement.
Oui, et c'est problématique pour un département fédéral qui vient de connaître une importante restructuration. De plus, en 4 ans, cet office a fait le grand écart avec 3 patrons. L'UDC Christophe Blecher d'abord, la PBD Evelyne Wittmer-Schlumpf et là maintenant la société socialiste Simonetta Sommaruga avec les changements de politique et de style que cela implique.
Et ses collaborateurs qui sont peu ouverts aux changements représentent la moitié des employés de l'ODM. Ils se divisent en deux parts égales.
Oui, l'une qui représente donc le quart de l'office est déçue et à bout, selon les termes mêmes de l'enquête. Sa motivation et sa performance sont faibles. Ses collaborateurs sont là physiquement, mais ils ont démissionné intérieurement. Cette part augmente depuis 4 ans et ce chiffre est bien supérieur à la moyenne de l'administration fédérale dans son entier. Un autre quart des collaborateurs représente les satisfaits résignés, selon les termes de l'enquête. Ceux-ci sont anxieux et passifs et également peu ouverts au changement.
Un autre résultat important, mauvaise nouvelle, les collaborateurs voudraient démissionner, ils sont nombreux.
Travailler ailleurs qu'à l'office des migrations, un tiers des collaborateurs y a souvent songé et un autre tiers y a songé parfois. Autre résultat intéressant, plus de 9 collaborateurs sur 10 estiment qu'à l'ODM, les processus de travail pourraient être simplifiés et 86% des collaborateurs pensent qu'on pourrait davantage limiter les coûts. Enfin, ils sont 4 sur 5 à penser que les décisions à l'ODM ne sont pas prises sur la base de faits établis et d'arguments objectifs.
Qu'en dit l'ODM ?
Son vice-directeur en charge de la planification et des ressources admet des résultats moyens dans l'ensemble. Il admet aussi que la réorganisation a laissé des traces. La semaine prochaine, l'ODM se réunira pour décider de mesures. Elles seront mises en place à partir du mois d'août.
Muriel Balamont, merci.
Forum, Nathalie Ducommun, Philippe Reva.
Je veux rendre à la France sa force, sa sérénité, son unité. Ce sont les mots de Martine Aubry qui a confirmé ce matin sa candidature aux primaires socialistes en France. Depuis son fief de Lille, elle a appelé au rassemblement avec les écologistes et pris l'engagement de la victoire à la présidentielle de 2012. C'est aujourd'hui le premier jour du dépôt des candidatures aux primaires socialistes. Le premier tour se déroulera le 1er octobre. La campagne de la présidentielle française est donc lancée. On va se demander avec nos invités si les socialistes peuvent battre Nicolas Sarkozy. Ce sera la question de ce débat. On va soulever d'autres également avec nos invités. Frédéric Dabi, politologue, directeur du département Opinion à l'IFOP, bonsoir.
Bonsoir.
Thomas Legrand est avec nous également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes l'éditorialiste politique de France Inter. Vous avez aussi rédigé un ouvrage, Je n'ai rien qu'un président qui nous fait perdre du temps, aux éditions Stock, je le cite. Et puis Mehmet Gültas, notre correspondant permanent à Paris, est avec nous également. Mehmet Gültas, Thomas Legrand, Frédéric Dabi avec vous. On va se demander, d'abord peut-être une première question après cette entrée en campagne de Martine Aubry. Thomas Legrand, elle a vraiment envie d'y aller, elle a envie de faire campagne, on en a beaucoup douté, hein.
Ah, ça a été un doute permanent. C'est encore le titre d'ailleurs du journal de Marianne de ce week-end. En a-t-elle vraiment envie ? Là, le doute ne peut plus exister à mon avis. En tout cas, si elle n'en a pas envie, elle fait très bien semblant. Sa déclaration de campagne était très volontaire. Elle était assez enthousiaste, même si je trouve que le dosage entre la solennité, l'envie justement. Était pas mal fait et je pense que maintenant, en tout cas, maintenant qu'elle est dans le bain, peut-être qu'au départ elle n'était pas prête à y rentrer. Il fallait vraiment que les conditions soient remplies. Les conditions ont été remplies, on le sait comment, hein, après l'affaire Strauss-Kahn.
On en a entendu parler. Ouais.
Maintenant que elles sont remplies, je pense que elle va y aller à fond et on va plus se poser cette question de l'envie de Martine Aubry dans quelques jours.
Frédéric Dabi, c'est votre opinion aussi?
Oui, je partage ce que vient de dire Thomas Legrand, et c'est une sorte de pratique politique pour Martine Aubry. On a vu au moment du congrès du Parti socialiste à Reims qu'elle n'avait pas forcément envie d'être première secrétaire en décembre 2008. Finalement, elle l'a été par la force des choses. Peut-être n'avait-elle pas envie d'être candidate, mais personnellement, nous n'en savons rien. Nous ne sonderons pas les consciences à l'IFOP. Finalement, par la force des choses, par le retrait de Dominique Strauss-Kahn forcé, elle endosse maintenant le statut de candidate aux primaires et de candidate à l'élection présidentielle. Donc, elle est partie et c'est une nouvelle bataille qui commence, une bataille interne qui peut être une bataille sanglante.
Mehmet Gültas, est-ce que ses troupes sont en ordre de bataille pour gagner Martine Aubry ?
Ah ben ça, quand on parle avec effectivement leurs proches, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Certains même disent, et même à la municipalité de Lille hier, je côtoyais notamment certains opposants de Martine Aubry, certains me confiaient qu'en fait, elle en avait toujours eu envie. En tout cas, en 2001, avait-elle déjà affirmé qu'elle était intéressée par cette élection suprême. Alors, difficile évidemment de faire la part des choses. En tout cas, c'est une femme déterminée. Si elle n'a pas envie, c'est en tout cas, elle est déterminée déterminée, il l'a montré aujourd'hui à travers sa déclaration effectivement solennelle, et c'est ce qui compte finalement dans cette bataille, c'est cette qualité qui est là, hein, que tout le monde reconnaît à Lille en tant que maire. Quand elle se lance dans quelque chose, elle va jusqu'au bout, elle ne lâche rien.
Thomas Legrand, face à elle, c'est François Hollande, le principal rival, c'est lui qui est parti le plus tôt, ça va être un peu le combat entre les deux, le duel.
Pour l'instant, c'est ça, oui. Et moi, j'ai l'impression, il faudra demander peut-être à Frédéric Dabi ce qu'il en pense, mais moi, j'ai l'impression que ce duel va perdurer. On va voir si, dans quelques jours, le fait que Martine Aubry soit maintenant candidate officiellement, c'était devenu un secret de polichinelle, est-ce que ça va faire un petit déclic dans l'opinion? Est-ce que on va s'imaginer Martine Aubry présidente? Est-ce qu'elle va réussir à nous faire imaginer la suite et puis à faire en sorte que le peuple de gauche, comme on dit en France, soit plus tenté de voter pour elle que de voter pour François Hollande? Il faut, pour la qualité de la primaire, en fait, il faudrait mieux qu'il y ait un des candidats qui se détache. Parce que s'il y a un duel serré, je pense que les socialistes auront du mal à ne pas s'étriper, alors que si ça devient évident, chacun va essayer de tenir son rang, de faire le mieux possible en sachant finalement qui va gagner à la fin. Et je pense que si beaucoup de monde finalement va voter et qu'à la fin tout le monde se réunit derrière celui qui gagne, celui qui l'emportera sera très difficile à battre par Nicolas Sarkozy.
Frédéric Dabi, c'est les jours qui viennent qui sont décisifs pour Martine Aubry. Il faut qu'elle fasse envie, en quelque sorte. Ça va se jouer maintenant.
Oui, c'est vrai qu'on mène depuis maintenant quelques mois un baromètre de la primaire socialiste, hein, cet objet politique tout à fait non identifié. Et on voit très très bien depuis le retrait de Dominique Strauss-Kahn qu'il y a un vrai mano à mano entre François Hollande et Martine Aubry. Il faut bien le dire, pour l'instant, il y a une avance relativement nette, 9 points, en faveur de François Hollande. Mais on sait très bien qu'une entrée en candidature et une dynamique de campagne, mais ça sera plutôt au moment du mois de septembre, peut changer fortement les choses. En tout cas, ce baromètre des primaires montre par défaut ceux qui n'y arrivent pas. Ségolène Royal, qui est plutôt dans des séquences politico-médiatiques réussies, n'embraye pas. Elle est à plus de 20 points de Martine Aubry, plus de 30 points de François Hollande. Mais on se dirige de plus en plus vers un mano à mano. Je nuancerai un petit peu ce que vient de dire Thomas Legrand. En 2006, Ségolène Royal l'avait quand même emporté extrêmement fortement, nettement, 58%, plutôt 60% au premier tour, ce qui n'avait pas empêché des déchirements des socialistes pendant la campagne présidentielle. Mais là, tout dépendra du nombre de personnes, du nombre de sympathisants socialistes et de gauche qui ont voté aux primaires. On parle de 2 millions, 3 millions, 4 millions. Plus le soutien populaire sera large, plus on sortira d'une désignation intra-partisane, si je puis dire, étriquée, et plus il y a de bonnes chances que ce candidat, cette candidate socialiste investie, soit irrésistible peut-être, mais soit très difficile à battre dans un contexte où toujours le retrait de Dominique Strauss-Kahn n'a pas modifié majoritairement le rapport de force électoral, n'a pas modifié l'impopularité chronique et structurelle du président de la République. Dans ce cadre, ça risque d'être difficile pour la droite.
Mais Thomas Legrand, vous disiez que ce sera difficile pour Sarkozy de battre un candidat de gauche qui soit imposé très vite, qui réunit le parti derrière lui. Mais est-ce qu'on ne se méprend pas un petit peu sur la popularité de Nicolas Sarkozy avec ses sondages très mauvais? Il est vraiment aussi en danger que ça?
Je ne sais pas si on se méprend, mais il y a quelque chose qui nous est apparu éclatant au moment de l'affaire Strauss-Kahn. Tout le monde imaginait que Strauss-Kahn était très largement devant dans tous les sondages, et il y en a beaucoup, et ils disent tous à peu près la même chose, parce que il y a eu la crise et que Dominique Strauss-Kahn représentait l'excellence économique, quelque chose de très rassurant, quelque chose même au-dessus d'un point de vue de l'importance institutionnelle, au-dessus du président de la République. Et du coup, ça nous apparaissait comme étant la raison principale de l'avance de Dominique Strauss-Kahn, du candidat de gauche, sur le président de la République. Eh bien, vous mettez ce candidat idéal, vous le mettez en prison pour viol aux États-Unis, donc c'est un peu ce qu'on peut faire de pire, et hop, d'un coup, le suivant prend quasiment sa place dans les sondages et est à plus de 60% de taux de sympathie et très très largement devant Nicolas Sarkozy au premier tour. Ce qui veut dire que c'est pas tellement encore le candidat socialiste, quel qu'il soit, qui est attractif, mais c'est qu'il y a une sorte de répulsion.
Répulsion, vous allez jusque-là.
On peut presque utiliser ce mot. Vous savez que hier, Nicolas Sarkozy a fait une conférence de presse. Pendant des mois, Nicolas Sarkozy parlait énormément, des années, énormément tout le temps, etc. On a dit qu'il a usé la parole présidentielle. Ses conseillers lui ont conseillé, lui-même s'en est aperçu, de raréfier sa parole pour lui donner un peu d'importance à cette parole. Il l'a raréfié, il a fait une conférence de presse, ça n'est que la quatrième conférence de presse. Donc c'est normalement un événement. Eh ben, vous prenez par exemple la une du grand journal populaire Le Parisien, aujourd'hui en France, de ce matin, rien. C'est-à-dire que la parole du président est dévaluée. Et moi je pense que c'est ce qui touche un petit peu aussi Ségolène Royal. C'est-à-dire que Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy sont très 2007, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont dans une façon de faire de la politique, de la propre agenda, c'est-à-dire essayer d'occuper l'espace médiatique par des coups, par des déclarations à l'emporte-pièce. Et ça marchait très bien en 2007. Ça ne marche plus parce que depuis, il y a eu la crise et que ça devient indécent d'essayer d'imposer autre chose que les sujets de la crise. Et des gens un peu plus carrés, un peu plus enracinés, un peu plus anciens et un peu plus classiques marchent mieux. Songez que le ministre le plus populaire aujourd'hui, c'est Alain Juppé. C'est pas un ministre du renouvellement, c'est pas une femme. C'est Alain Juppé, le plus ancien, le plus classique des Chiraciens.
Pour revenir à la candidate Martine Aubry, Mehmet, on s'est vu de Suisse, c'est la femme des 35 heures. Ça avait un peu choqué par rapport à notre culture peut-être. Mais c'est aussi la fille de son père, de Jacques Delors, qui lui avait dit non. Est-ce que vous pensez, Mehmet, qu'elle peut capitaliser quand même sur la sympathie qu'ont toujours eu les Français pour son père ?
Elle peut, mais c'est surtout son expérience du gouvernement. Elle a été sa compétence surtout qui vont faire mouche à mon avis. Elle a été ministre deux fois, numéro 2 du gouvernement Jospin. Elle a un ancrage local solide, 10 ans à la tête d'une ville comme Lille. C'est une des rares femmes à diriger une ville de plus de 100 000 habitants aujourd'hui en France. Elle a la réputation en plus d'être pragmatique, ni idéologue, ni populiste, ni démagogue. Et elle a donc la capacité de fédérer la gauche, voire de grappiller des voix au centre. Parce que bien qu'ancrée à gauche, je dirais, sur les questions sociales, elle reste une femme pragmatique sur le plan économique. La seule chose, c'est que la compétence, évidemment, ne suffit pas. Il faudra encore qu'elle séduise l'électorat, donc en quelque sorte qu'elle fasse découvrir cette corde sensible, dit-on, qu'elle aurait, selon ses proches.
Ouais, Frédéric Dabi, c'est intéressant quand on parle de Martine Aubry, François Hollande, on entendait Thomas Legrand. Il faut aujourd'hui un autre, une sorte d'autre personnalité, quelque chose. Il faut être le moins clinquant possible, il faut être le corésien de service comme François Hollande, partir de très loin, de très bas aussi, et puis suivre sa route avec un profil austère comme ça. C'est ça qui marche. Martine Aubry, elle est un peu là-dedans aussi, non ?
Oui, on parle d'une Angela Merkel à la française. Ce que vient de dire votre intervenant me paraît tout à fait juste. La compétence, l'expertise, mais il y a aussi une valeur très forte qui est prêté à Martine Aubry, qui pourrait lui servir pendant une primaire, qui est une primaire interne, je le répète, même si c'est ouvert à l'ensemble des sympathisants de gauche, c'est la fidélité aux idées, aux valeurs de la gauche. On a l'IFOP la semaine dernière pour François, a fait un match, si je puis dire, Martine Aubry, François Hollande, sur toute une série de dimensions. François Hollande l'emporte nettement sur la capacité à battre Nicolas Sarkozy. Et par rapport à ce que disait Thomas Legrand, cette intense envie d'alternance du peuple de gauche, c'est un atout très fort pour François Hollande, mais n'oublions pas que dans une bataille interne, l'ancrage à gauche compte quand même beaucoup, et là, Martine Aubry devance François Hollande, elle le devance aussi sur la proximité aux préoccupations des Français, donc la proximité, c'est aussi ressembler aux Français, c'est l'anti-bling-bling, c'est une certaine austérité, et c'est dans ce cadre-là qu'on peut parler d'une Angela Merkel à la française. Pour autant, je serais quand même relativement prudent. Il n'y a pas un indicateur d'opinion présidentielle qui est bon au président sortant, mais n'oublions pas que les Français ne sont pas dans le contexte présidentiel, que l'offre électorale n'est pas du tout stabilisée, on ne connaît pas encore les candidats, il y en a énormément ou pas du tout dans un sens, et on est sur une très forte incertitude. Donc même si les clignotants, pour reprendre une phrase historique, sont au vert pour la gauche, il faut être extrêmement prudent. Nous sommes à 10 mois du premier tour de l'élection présidentielle.
Thomas Legrand, pour conclure peut-être rapidement, François Hollande, Martine Aubry, à votre avis, d'éditorialiste politique, vous connaissez très bien la politique française, c'est qui il faut pour le Parti Socialiste pour battre Sarkozy ?
Ah, qui il faut ? Alors c'est pas un pronostic, je me garderais bien de faire un pronostic, je suis très mauvais en pronostic, qu'il faut, franchement, je sais pas. C'est vrai que quand on les regarde tous les deux, il faudrait François Aubry ou Martine Hollande. C'est un peu une facilité, mais ils sont assez complémentaires. D'ailleurs, François Hollande a dit qu'ils étaient complémentaires. S'ils arrivaient, mais comme ils s'entendent pas très bien, j'en doute, s'ils arrivaient à dire que le vainqueur formerait un ticket avec le vaincu, entre les deux, et quel qu'il soit. Enfin, je sais pas
ça
si
serait la solution.
Idée, mais ouais. En tout cas, si cette idée rentrait un petit peu, si après la victoire, le vainqueur proposait au vaincu d'être son directeur de
ministre.
Campagne, ça serait pas mal.
D'accord, je vous remercie beaucoup. C'est un conseil que peut-être quelques socialistes auront entendu. Thomas Legrand, Frédéric Dabi, Mehmet Gültaş, merci beaucoup. Excellente soirée à vous.
Au revoir, merci.
Merci.
Sébastien Dupéré, la météo.
L'anticyclone situé sur l'Allemagne qui a influencé le temps ces derniers jours est en train de faiblir et demain une perturbation traversera le pays. En matinée, il y aura encore quelques rayons de soleil, notamment sur les Alpes, mais assez rapidement les cumulus se feront de plus en plus envahissants. Les premières averses sont attendues pour la fin de la matinée sur le Jura et le plateau, puis sur les autres régions. Dans l'après-midi, des orages pourront éclater, accompagnés par des rafales parfois fortes localement. Le mercure indiquera encore entre 17 et 20 degrés en matinée, mais avec l'ensoleillement très réduit, il aura de la peine à dépasser les 24 degrés dans l'après-midi. Jeudi, les résidus nuageux seront encore nombreux en matinée, mais progressivement, ils vont se dissiper et le soleil prendra le dessus. Le long des préalpes et dans les Alpes, ces résidus pourront se montrer un peu plus tenaces. Les températures resteront relativement fraîches, avec entre 21 et 23 degrés seulement. La fin de la semaine s'annonce à nouveau ensoleillée, avec un mercure progressivement en hausse.
Infotrafic RSR
avec Adam, clinique dentaire, adam.ch.
Sur le contournement de Genève, d'importants ralentissements sont observés sur près de 5 km entre l'aéroport et le tunnel de Vernier en direction de la France. Et puis il y a un bouchon sur l'autoroute Lausanne-Yverdon aux abords d'Yverdon Sud en direction d'Yverdon. C'était l'Inforoute. C'est la fin de ce forum. Je vous remercie de l'avoir suivi. Éric Jutzet et Philippe Vaudan étaient à la technique. Ils sont avec nous. Ils sourient derrière la vitre. Excellente soirée. Il est 19h sur la première.